Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, nous tenons à remercier le comité d'organisation de nous avoir invités à présenter donc cette organisation récente au niveau de l'hôpital Saint-Antoine. Donc, il y aura une partie clinique présentée par ma collègue Christelle Hermand, qui est au niveau du service d'accueil des urgences. Et moi, je suis biochimiste, mais je suis responsable de l'organisation du laboratoire de biologie d'urgence, qui est un laboratoire multidisciplinaire. Donc très rapidement, donc on fait partie du groupe hospitalier HUEP, qui, comme son nom l'indique, est parisien. Ce sont des hôpitaux situés à l'est de Paris, avec quatre établissements, Thenon, Trousseau, Rothschild et l'hôpital Saint-Antoine. J'ai l'impression que ça résonne. Donc le service d'accueil des urgences, qu'on appellera SAU, donc, fait partie d'un pôle d'urgence et d'aval qui représente donc pour nous au LBU le principal prescripteur, pôle prescripteur. Et au niveau donc de ce le LBU fait partie donc du pôle de biologie médicale et pathologie qui regroupe un certain nombre de laboratoires, dont le laboratoire de bactériologie qui a donc collaboré à la mise en place donc de la prise en charge des LCR et en particulier donc de l'acquisition d'un appareil de biologie moléculaire. Donc ça, c'est une petite vue en garde, puisque ce que l'on va voir, c'est une activité donc, que l'on pratique uniquement pendant la permanence de soins, donc pendant la garde. Donc à gauche, vous avez le service d'accueil des urgences dans un bâtiment moderne, et à droite, dans l'ancien bâtiment, au premier étage, il y a le LBU. Donc on n'est pas loin du tout, mais en fait, nous n'avons pas de pneumatique, et donc il y a toujours le système des coursiers qui apporte donc l'ensemble des échantillons. Il faut savoir que pour cette prise en charge des LCR, nous prenons en charge l'ensemble des LCR adultes du GH, donc également ceux de l'hôpital Thenon et éventuellement Rothschild pendant la garde. Donc un petit mot sur, pour montrer à quoi ressemble le laboratoire de biologie d'urgence. Donc, c'est une structure qui a été créée en 2017. C'est une filière spécialisée pour l'urgence. Donc on prend en charge les examens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'hématologie et la biochimie. Et puis à la fermeture des laboratoires centraux, eh bien on fait le relais, en particulier en hémobiologie périnatale et puis pour des tests spécifiques pour par exemple les VIH ou le PALU. Nous gérons également la biologie délocalisée. On fait à peu près 400 dossiers par jour et notre premier prescripteur, c'est le service d'accueil des urgences, donc qui représente 27% en fait de nos demandes. Donc Christelle va vous présenter maintenant le service.
Donc, le service des urgences, il comprend à peu près 65 000 passages par an. Ça fait à peu près 175 passages par jour, avec des pics jusqu'à 220. On a trois lignes de garde avec 22 médecins équivalents temps plein, 66 infirmières et 56 aides-soignants qui nous servent de coursiers pour les prélèvements. Notre activité, elle est répartie sur les 24 heures. On peut noter un peu de creux entre 2 heures et 6 heures du matin, mais ce qui fait qu'on fait autant de gestes en garde quasiment qu'en journée. Donc le problème de la ponction lombaire, c'est quand on doit la faire, on a des indications qui sont généralement équivalentes pour tout le monde, à savoir le syndrome méningé fébrile, la crise convulsive fébrile, les syndromes confusionnels, les céphalées brutales, à scanner normal, les troubles de vigilance et plus anecdotiquement en termes de fréquence, les suspicions de Guillain-Barré. La méningite, le problème, c'est que c'est une maladie grave avec un pronostic potentiellement létal. 135 000 morts à peu près par an sur le plan mondial et une mortalité de 10 à 30% dans le cas des méningites bactériennes. Alors, notre attitude habituel devant un syndrome méningé, c'est que, en l'absence de contre-indication, suspicion de méningite, l'APL est faite immédiatement après l'examen clinique, avant tout résultat biologique, et sauf signe d'hypertension intracrânienne, sans imagerie cérébrale au préalable. Et le raisonnement est à partir de l'aspect macroscopique du liquide. Soit il est trouble, et à ce moment-là, c'est un traitement immédiat par corticoïdes et antibiothérapie à dose ménagée. S'il est clair, c'est fonction de l'état clinique du patient. Patient qui a un tableau incomplet, un examen clinique rassurant, on attendra les résultats du LCR. S'il a des signes de gravité, on a la même attitude qu'une méningite purulente. Et s'il a des signes d'encéphalite associée, on ajoutera de la ciclovir à dose ménagée en attendant les résultats. On considère un LCR positif quand on a plus de 10 éléments par millimètre cube. L'attitude conventionnelle, c'est l'hospitalisation du patient, l'antibiothérapie à l'examen direct il est positif. Si l'examen direct est négatif, on est en fonction de la clinique avec généralement le dégainage de l'amoxicilline, du céphotaxime, de la cyclovir, éventuellement de la gentamicine si on suspecte une dystériose, jusqu'à la récupération des cultures et des PCR qui sont faites secondairement. Le cheminement du prélèvement de LCR en horaire classique, c'est l'envoi en biochimie pour l'analyse biochimique de l'échantillon. Pour les tubes en bactériologie, on a la cytologie et éventuellement un gramme si on a plus de 10 éléments. Et soit on a des arguments pour un envoi direct en virologie, sinon un envoi secondaire, ce qui nous donne des résultats globaux en à peu près 48 heures.
Donc je vais vous présenter maintenant la prise en charge telle qu'elle est faite actuellement, puisque avant la solution n'était pas satisfaisante. Le LCR est une petite structure au niveau surface et on n'assurait pas donc la microbiologie qui était externalisée sur une garde spécifique. Donc cette mise en place a été faite en collaboration avec nos collègues donc de bactériologie. Et donc, comme je vous l'ai dit, on prend en charge maintenant l'ensemble du GH et on a pu donc récupérer... par chance, donc une surface, un bureau de cadre qui a été transformé en pièce technique et dans lequel donc on a mis un poste de sécurité microbiologique et puis tout le matériel nécessaire et fait l'acquisition donc du film arrêt avec son panel donc méningite encéphalite. Donc on a vu que ça permet cette fameuse approche syndromique qui vous a été présentée donc précédemment avec une recherche simultanée donc par PCR multiplex des différents pathogènes pouvant être impliqués, que ce soit bactéries, virus ou champignons pathogènes. Donc actuellement en garde, l'organisation actuelle, c'est donc il y a des coursiers qui envoient directement les tubes, tout l'ensemble des tubes au LBU, donc on réalise la biochimie, la cytologie, et là c'est au niveau du laboratoire qui est décidé ou non de déclencher le film arrêt. Donc là il ne s'agit pas du tout de biologie délocalisée, hein, c'est fait au laboratoire. Et la recherche donc d'agents pathogènes par le système FilmArray est fait de manière systématique s'il y a plus de 10 éléments par millimètre cube. Et également s'il y a une justification, dans le cas où la cellularité n'est pas aussi importante, par le clinicien, en particulier en présence de signes neurologiques, de choses évocatrices d'encéphalite. Et puis bien sûr, on participe également à la mise en culture, mais nous ne faisons pas d'examen direct. Alors, ce matin, il y a eu toute une présentation, donc je vais aller vite, mais l'approche syndromique pour le biologiste, il y a quand même quelque chose de complètement nouveau, c'est de travailler sur un seul prélèvement dans plusieurs spécialités. Déjà, on réduit le volume de l'échantillon, et puis on a cette mixité biologique, c'est-à-dire de rechercher à la fois des bactéries, des virus et des champignons, et d'avoir une réponse simultanée et très rapide. Et ça n'a rien à voir avec l'organisation habituelle de nos GH, où les spécialités sont généralement séparées, historiquement parce que les techniques n'étaient pas les mêmes, et nécessitaient donc des compétences qui étaient différentes. Mais là, on se retrouve dans une situation, nous à l'hôpital Saint-Antoine, où on a une personne de garde, puisque cette mise en place se fait pour la nuit, uniquement pour la période donc, de permanence des soins nocturnes, et donc il y a une personne avec une technique, et l'avantage c'est d'avoir donc une réponse globale sur l'ensemble des différents micro-organismes. Donc c'est particulièrement intéressant, mais ça demande, et là c'est le cas parce qu'on est la nuit, c'est qu'on a toujours un interlocuteur où on va pouvoir rendre le résultat et que le résultat soit utilisé, parce que bien sûr ça n'aurait aucun intérêt de le faire et que personne ne l'utilise derrière, puisque le but, c'est d'avoir le résultat rapidement. Donc pour le clinicien, bien sûr, pour lui, ben, c'est le résultat rapide, hein, dès J0, hein, par rapport aux cultures, par rapport aux autres examens de biologie moléculaire qui peuvent être faits en virologie. Et puis, donc pour lui, c'est l'adaptation de sa prescription. On verra tout à l'heure sur les exemples qu'on va vous présenter. C'est l'isolement du patient, les modifications des traitements, donc que ce soit antibiothérapie ou antiviraux, que les traitements soient institués, soient modifiés, soient arrêtés. Et puis donc on a potentiellement, comme ce qui a été dit ce matin, donc un impact potentiel sur les coûts, peut-être une réduction donc sur les examens complémentaires, les autres examens qui seraient faits, et puis surtout sur l'organisation. Donc ma collègue va vous présenter ça. Il y a un point important donc pour le flux des patients. Donc voici ce qu'on a mis en place. Donc au début, on a voulu installer le film arrêt dans cette pièce, mais comme c'est très petit, il n'est pas possible de la climatiser et on ne peut pas mettre de climatisation donc avec le PSM. Donc en fait, on a installé le film arrêt dans l'espace du LBU. On a réussi à trouver une petite boue de paillasse, mais vous voyez, ce n'est pas très encombrant. C'est essentiellement une station informatique et puis à côté, il y a un module. Il faut savoir simplement que nous, c'est vrai pour les LCR, un module nous suffit, mais comme la durée du test est quand même de plus d'une heure, si bien sûr on risque d'avoir plusieurs échantillons ou de faire plusieurs panels, il faut plusieurs modules, mais c'est possible d'ajouter les modules et même de les superposer. Alors, pour habiliter le personnel, donc on partait de, entre guillemets, de zéro, puisque les examens n'étaient pas faits sur place. Donc, on a 18 seniors et 7 techniciens qui ont été concernés. Donc, on a fait d'abord la partie générale sur la formation théorique à la prise en charge des LCR et surtout l'organisation que nous avions choisi de faire. Et puis, une formation pratique avec contrôle également sur cytologie et encensement. Alors, en ce qui concerne le film arrêt, c'était plus difficile parce que le prix des réactifs permettait difficilement que tout le monde fasse un test. Donc, on a fait une formation relativement simple, basée sur les vidéos données par le fournisseur, et également une démonstration interne, donc au LBU, en petits groupes, où une personne manipulait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de problème par la suite, et donc le fait que tout le monde n'ait pas manipulé une première fois n'a pas été un échec. Et puis on a également eu une formation de référent par la société, donc fournisseur de l'appareil. Donc le panel méningite encéphalite film arrêt, donc ça contient en fait tous les réactifs, c'est du tout en un, donc c'est très proche des appareils de biologie délocalisés vraiment dans la philosophie, et donc ça permet donc de détecter donc 7 virus, 6 bactéries et le cryptocoque également. Donc au niveau de la préparation, c'est relativement simple, donc les tests sont individuels, ils se conservent à température ambiante, et par contre il y a des périodes critiques. Le critique, c'est le timing, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a démarré la reconstitution, il ne faut pas dépasser un certain délai. Sinon, nous on travaille un test à la fois, donc en fait sous PSM, il suffit de préparer la cassette en la plaçant sur un support, ensuite il y a une étape d'hydratation de la cassette, puis on prépare l'échantillon à l'aide d'une pipette qui est fournie, donc également pour la métrologie, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de métrologie spécifique sur les pipettes, et puis donc l'échantillon préparé est injecté à l'intérieur de la cassette. Ça prend en pratique à peu près 5 minutes, le fournisseur dit 2 minutes, mais je dirais que 5 minutes, tout compris, est plus juste. Ensuite, c'est très simple, eh bien, nous nous déplaçons dans la pièce attenante du LBU et on charge la cassette donc, sur le module. Il y a bien sûr une traçabilité de l'opérateur, de l'échantillon, du réactif et on lance l'analyse au niveau du poste informatique. On obtient le résultat en 70 minutes et on a l'édition d'un rapport qui est très clair et qui dit si une des cibles est détectée et si les cibles sont non détectées. Alors, il est possible d'avoir une liaison informatique, ce que nous n'avons pas, mais comme on fait quand même relativement peu de dosage, ce n'est pas un problème de faire une ressaisie. Donc le principe, c'est vraiment du tout en un dans la cassette, avec une première étape donc, d'extraction et purification des acides nucléiques, puis une PCR nichée avec 2 étapes de PCR, et enfin l'analyse automatique donc, par le logiciel des courbes de fusion et la génération donc, du rapport. Donc ce rapport, le voici. Donc il est vraiment très clair au niveau pour son utilisation. Il est indiqué, je sais pas si on peut montrer là, donc ici c'était un test que nous avions fait positif donc avec un méningocoque. Donc vous avez détecté, vous avez également donc ce qui a été détecté qui est résumé ici, et puis les contrôles de qualité qui sont présents à l'intérieur de la cassette, qui sont également validés ou non validés. Il y a à l'intérieur donc une levure qui subit toutes les étapes et qui sert de contrôle, et toutes les mesures sont faites en tripliquette et il y a tout un système donc de vérification pour valider les étapes. Alors, on a eu quand même un dysfonctionnement. On a eu quand même un dysfonctionnement. Je vais revenir en arrière. Voilà, sur le film arrêt. Donc, un épisode de panne. On a eu donc 2 patients qui étaient en échec avec des contrôles qui étaient invalides. En fait, c'était un problème vraiment de l'appareil lui-même, des problèmes de gestion du logiciel sur la température du thermocycleur. On a fait une étude de l'impact clinique de ces 2 patients. Et heureusement, il n'y en a pas eu. Et par contre, on a eu donc un remplacement très rapide du module sous 48 heures et les tests nous ont été remboursés, ce qui est une bonne chose vu le prix de ces tests, comme vous pouvez voir. Alors, l'activité LCR pendant les 10 mois, les 10 premiers mois d'études, donc on a fait 380 LCR analysés, un peu plus que ce qu'on avait externalisé l'année précédente, mais il faut voir, il y a une petite dérive, parce que sachant qu'il y a un film arrêt au laboratoire d'urgence, les PL de fin d'après-midi de jour, maintenant, ont tendance à se décaler en début de garde. Bon, ça, c'est un petit problème qu'on peut parler. Il y a eu 166 provenaient du SAU, donc 40, presque la moitié donc, sont fournis par les urgences. 70 12 films arrêt ont été pratiqués, ce qui représente 1 sur 5. Et au SAU, plus spécifiquement, il y en a eu 25, ce qui représente un peu moins, c'est-à-dire en fait 1 sur 6, 15% des LCR. Donc en fait, il y a cette surreprésentation des autres services est liée à ce fait que je vous ai dit, c'est-à-dire que les patients les plus graves, ils attendent de pouvoir l'envoyer au LBU. Et puis également, le service de bactériologie, parfois, vient passer des patients qui leur ont été parvenus dans la journée pour voir bien quel est le résultat sur l'analyseur FilmArray, parce qu'ils n'en ont pas encore. Donc sur les 25 FilmArray qui ont été réalisés au SAU, déjà 22 étaient pour la cellularité supérieure à 10 éléments, et simplement 3 sur demande spécifique, essentiellement pour des signes d'encéphalite, et on avait en plus sur les 3 un patient splénectomisé. Il y a eu 11 résultats positifs, donc quand même pratiquement 1 sur 2. Donc deux streptocoques, donc pneumoniés, quatre entérovirus, quatre virus varicelle zona, un patient qui avait une co-infection herpès simplex et HHV6, et 14 résultats négatifs, donc 56%. Aucune culture n'a poussé secondairement, et on a un exemple de faux négatif que va vous présenter Christelle dans l'analyse des patients.
Alors, concernant les 25 patients, on avait une grande majorité d'hommes avec un âge médian qui était l'âge moyen d'un 45 ans, des âges extrêmes de 15 et 88 ans, sachant que Saint-Antoine est un hôpital d'adultes, donc on n'a pas d'enfants et pas de pédiatrie du tout habituellement. Quand on prend la triade pour syndrome méningé fébrile, céphalée, raideur de nuque, vomissement, ça n'était que pour 6 patients sur la cohorte, avec quand même une majorité de céphalée fébrile en termes de symptômes initiaux. Concernant les troubles neurologiques, associés ou non à une raideur de nuque, c'était 10 patients sur les 25, soit 40%. C'était pour les 2 patients infectés à pneumocoque, un qui avait une infection à VZV, et sur les 7 résultats dont le film arrêt était négatif, il y avait celui dont l'échantillon est revenu secondairement positif à VZV, une encéphalite à VIH et une toxoplasmose. Pour les autres patients, il n'y a pas eu d'éléments viraux ou bactériologiques retrouvés étiologiques. Si on regarde les patients qui étaient infectés à pneumocoque, on peut voir que c'était des symptomatologies qui étaient bruyantes et brutales, dans les 2 cas qui étaient horodatées, qui étaient associées à des signes ORL et un syndrome confusionnel, des troubles de la vigilance, des PL faites rapidement, bon, sachant quand même 4h20, 6h30, c'est un petit peu long. Sur le plan biologique, récupéré secondairement, on peut noter la PCT négative pour un des patients. Et dans les 2 cas, les LCR étaient troubles avec une cellularité à prédominance de polynucléaire, une hyperprotéinorachie, une hypoglycorachie. Et là, typiquement, ce sont des patients qui ont été traités dès la réalisation de l'APL sans attendre aucun résultat. L'impact, là, pour le coup, du film arrêt a plutôt été la confirmation rapide, mais n'a pas eu d'impact sur la décision de traitement et sur l'organisation du traitement derrière. Pour les patients qui ont eu des résultats virologiques positifs, c'était 9 patients, dont 4 VZV, une co-infection HSV2 et HHV6 et 4 infections à entérovirus. Les patients qui étaient positifs à VZV, c'était 3 hommes pour une femme avec un âge médian de 31 ans. 2 des patients avaient un zona lors de l'examen initial, le troisième l'a extériorisé secondairement. La biologie était peu contributive avec une absence de syndrome inflammatoire. Le LCR retrouvait une hyperprotéinorachie avec une glycorachie normale et une cellularité qui était à prédominance lymphocytaire. Et là, l'apport clair du Filmarray a été pour les patients qui avaient eu une antibiothérapie de l'arrêter, pour ceux qui avaient eu la ciclovir de le poursuivre, et ceux qui étaient en attente du résultat d'introduire le traitement. Le patient qui était faux négatif, c'était une femme de 46 ans qui avait consulté à J20 d'une péritonite appendiculaire avec un tableau de céphalée sans fièvre qui évoluait depuis une semaine avec un œdème du pavillon de l'oreille, puis une paralysie faciale et des troubles auditifs qui se sont installés. Elle avait eu un scanner cérébral injecté qui était normal, une biologie qui était normale. Et le LCR retrouvait une hyperprotéinorachie avec 160 éléments, dont 90% de lymphocytes. Le diagnostic a été fait sur l'analyse de l'ADN secondairement. Alors, cette patiente et un diagnostic final qui était de méningoencéphalite AVZV. Alors, l'intérêt a été une formule lymphocytaire, donc pas d'antibiotiques, mais la ciclovir avait quand même été maintenue devant les signes neurologiques, l'œdème du pavillon de l'oreille, même si elle n'avait pas de signes vésiculaires, de zona et de signes cliniques associés. Donc il n'y a pas eu d'impact clinique pour cette patiente. La co-infection à HSV2, HSV6, c'est un homme de 40 ans qui a un antécédent de syndrome de Mollaret, c'est-à-dire des infections à répétition de méningite herpétique, qui a consulté avec un tableau identique à ses épisodes précédents, à savoir des céphalées brutales, sans fièvre, des vomissements, frissons, photophonophobie. Biologiquement, 11 700 blancs, une CRP qui était négative, et un LCR qui retrouvait une hyperprotéinorachie, glycorachie normale, 60 éléments dont 60% de neutrophiles. Et là, pour le coup, le Filmarray permet de traiter. Là, c'est typiquement le patient qui aurait eu droit au combo amoxicilline, céphotaxime et aciclovir. Les résultats avaient été confirmés secondairement avec dans le sang pour l'HSV6 et sur le LCR pour l'HSV2. Les infections entérovirus. Alors c'est peut-être pour les urgences les patients dont les résultats sont les plus intéressants parce qu'il n'y a pas de traitement secondaire. Donc là, notre cohorte, c'était 4 patients, 2 hommes, 2 femmes, d'un âge médian de 24 ans, avec une clinique qui est pauvre en dehors du syndrome méningé, un syndrome inflammatoire très modéré, et un LCR qui retrouve surtout une cellularité à prédominance souvent à neutrophile. Et là, l'apport du Filmarray, c'est l'arrêt des antibiotiques quand il a été débuté, l'arrêt de la ciclovir quand il a été débuté, une sortie rapide des patients dès que les symptômes cliniques, les vomissements en particulier, sont traités symptomatiquement. Si on prend un exemple en particulier d'infection entérovirus, on a un homme de 43 ans qui n'avait pas d'antécédent, qui consulte à 20h45 le soir avec un tableau de céphalée fébrile depuis 48 heures, des vomissements, 40,2 de température, un syndrome méningé clinique sans signe purpurique, sans signe cutané, pas d'autres signes de localisation neurologique, pas d'autres points d'appel infectieux. Sur le plan biologique, il a une hyperleucocytose à 10 000 qui prédominait à neutrophile, une CRP qui était négative, une procalcitonine négative, une hyperprotéinorachie à 1,5 g, une glycorachie à 3, 52 éléments à prédominance neutrophile. Patient mis sous traitement au moment de la réalisation de l'APL, tout a été arrêté à la réception. Il est sorti le lendemain matin après hydratation et traitement symptomatique. Sur la prise en charge organisationnelle, cet exemple, c'était un des patients infectés à pneumocoque avec l'APL faite à 6h30. Sur l'ancienne organisation, ça aurait été coursier pour envoyer sur l'hôpital d'à côté avec des résultats qui seraient tombés vers 9h, 9h30 au mieux. Là, le Filmarray était rendu à 8h. Alors certes, ça n'a pas changé la prise en charge thérapeutique devant les symptômes cliniques très évocateurs et l'aspect macroscopique du LCR et la cellularité. Mais ça a permis de diminuer le nombre d'intervenants entre le patient, vu que c'était au moment des changements d'équipe médicale, paramédicale. Sur les coûts, le Filmarès, c'est 180 euros. Une journée d'hospitalisation aux urgences, c'est 1 700 euros. Une journée d'hospitalisation en médecine, c'est 1 300 euros. Ça permet de diminuer les examens complémentaires. Si le diagnostic est confirmé, on n'a pas besoin de chercher autre chose. Ça permet de régler le problème de l'isolement. Parce que, moi, comme partout, isoler un patient, c'est compliqué. Souvent, ça se réduit à un masque et une petite pancarte au bout en disant « isolement ». Ça permet de diminuer les durées d'antibiotiques ou des adaptés. Ça permet d'introduire ou d'arrêter les antiviraux. Et dans le cas des infections entérovirus, ça permet de limiter clairement l'hospitalisation. Dès que le patient a une symptomatologie compatible avec le domicile, il peut sortir. Donc, en conclusion, c'est une technique qui, pour le laboratoire, est relativement facile d'utilisation, qui est fiable. Pour le clinicien, c'est avoir un diagnostic rapide. Nous, ce qui est dit dans le service, c'est qu'il vaut mieux faire sa méningite entérovirus à 22h qu'à 9h du matin. C'est plutôt utilisé à bon escient. On note pas trop de dérives sur des Filmarès faits avec une cellularité qui était négative. Et pour les trois patients, il y avait à chaque fois une hyperprotéinorachie et des signes neurologiques qui pouvaient être compatibles avec une encéphalite éventuellement herpétique. Ça permet de diminuer la consommation d'antibiotiques, d'antiviraux et éventuellement les durées d'hospitalisation. Ce qui est prévu, c'est l'utilisation H24 avec la mise en place sur la bactériologie. On espère rapidement. Merci.
Merci beaucoup for nice presentation. And now we have time for one question. Yeah, the lady from second row.
Merci pour votre présentation très intéressante. Alors du coup, sur votre faux négatif de VZV, j'en conclus qu'il a été contrôlé le lendemain au laboratoire de virologie. Est-ce que tous les résultats des Filmarès, donc par exemple les PCR méningo, pneumo, herpès, entérovirus, là que vous sortez, sont systématiquement contrôlés, que ça soit positif ou négatif dans les laboratoires derrière ou pas?
Ça n'a pas été fait de manière systématique, mais la plupart du temps, on a retrouvé des...
Alors, ça a été... En fait, la culture a été mise en place systématiquement le lendemain pour les résultats bactériologiques. La viro, elle a été contrôlée sur les herpès, les antirovirus non. Ceux qui sont partis des urgences, ils ont eu des consultations secondaires à une organisation de suivi avec la consultation de maladies infectieuses, mais il n'y a pas eu de contrôle systématique. Celui qui était co-infecté, oui, parce que c'était un peu... Le tableau était un peu curieux et sur la symptomatologie et sur les antécédents, mais tous n'ont pas été contrôlés.
Et les cryptocoques?
On n'a pas eu de résultats positifs à cryptocoques, donc
les négatifs sont depuis, pas
ils ont tous été négatifs.
Hein. Ils n'ont pas été recontrôlés, les négatifs?
Non. Alors, on a les résultats négatifs. Il y a juste la bactérie, c'est-à-dire que tous les LCR ont été ensemencés, donc ça on sait qu'ils ils ont été négatifs, mais en viro, non, ou en parasito, ça n'a pas été systématiquement ensemencé sur Saburo, par exemple.